Chapitre 90. Le chasseur de lapins avance sur le trottoir étroit de Lunt Makargatan, une petite rue sombre entre de hauts immeubles au centre de Stockholm. C'est comme marcher au fond d'un fossé bordé de restaurants chinois, coréens et vietnamiens. Attaché à sa boucle, la petite hache se balance contre son torse à l'intérieur de sa veste. Des palettes chargées de boîtes de conserve bloquent le trottoir devant un des restaurants et l'obligent à descendre sur la chaussée. Le chasseur de lapins touche ses narines, comme s'il s'était mis à saigner. Il regarde ses doigts, mais ils sont propres. Il se remémore le jour où il avait attaché des lapins morts sur des vivants avant de les relâcher. Pris de panique, ils étaient partis dans toutes les directions, traînant avec eux les corps inanimés. Leur sang avait tracé d'étranges dessins sur le ciment crasseux. Ils se rappellent les mouvements désordonnés de leurs pattes arrière, le raclement des griffes, quand les petits animaux cherchaient à échapper au poids des morts. Sans se presser, ils remontent la rue et arrivent devant une porte de garage à moitié ouverte. Le volet roulant a été bloqué avec un chevalet à 1 mètre du sol, sans doute parce que le système de fermeture automatique est détraqué. À l'intérieur, une femme sanglote et proteste avec véhémence contre quelque chose. Le chasseur de lapins dépasse l'ouverture juste au moment où elle se tait. Il s'arrête, se retourne et écoute. La femme se fait engueuler par un homme et elle pleure. Le chasseur de lapins revient sur ses pas, se baisse et regarde à l'intérieur. Il voit la descente abrupte d'un garage situé au sous-sol. Une faible lumière éclaire les murs rugueux de béton. La femme parle d'une voix plus calme maintenant, puis se tait brusquement comme si elle avait reçu une gifle. Le chasseur de lapins s'introduit sous la porte et commence à descendre la rampe fortement inclinée. Une odeur d'essence et de renfermé remplit l'air. Il avance encore et arrive dans un petit garage de stationnement. Un sexagénaire en blouson de cuir noir et jean flottant pousse une jeune femme légèrement vêtue entre un fourgon rouge aux fenêtres embuées et une voiture de sport recouverte d'une housse argentée. « Vous vous amusez bien ?» lance-t-il à voix basse. « Quoi, t'es qui toi? T'as rien à foutre ici, barre-toi » Le chasseur de lapins regarde le couple mal assorti, puis le fourgon qui oscille, et il se dit qu'il va tous les éventrer, trancher leurs mains et les regarder courir dans tous les sens, le sang giclant partout. « Dégage !» dit l'homme. La femme le dévisage, le regard vide. Sur une bâche en plastique sont posés de gros éléments en aluminium d'un système de ventilation, et plus loin, contre le mur, sont empilés des rouleaux de gazon synthétique. Le chasseur de lapins n'a jamais refusé le combat rapproché. Quand il participait au nettoyage de la zone de combat à Ramadi, il était toujours en première ligne. Son groupe faisait exploser la porte et lançait quelques grenades à surpression polonaise à l'intérieur. L'officier en charge de l'opération s'écartait et guidait les autres. Chaque fois, il se ruait le premier droit sur la cible, avec son M4, son pistolet ou son couteau. Il était rapide et capable de tuer 4 ou 5 ennemis à lui tout seul. « Fous-moi le camp !» aboie l'homme en s'approchant. Le chasseur de lapins se redresse et essuie la sueur sur sa lèvre supérieure. Il regarde le néon au plafond, entend le grésillement du ballast. La lumière froide clignote et se reflète dans le conduit d'aération. « C'est un garage privé ici », lance l'homme sur un ton menaçant en bombant le torse. J'ai entendu des cris en passant et c'est pas ton problème. Le chasseur de lapins regarde de nouveau la jeune femme. Son visage est maussade, la joue où l'homme l'a frappée est rouge. Elle porte un imperméable court sur une jupe portefeuille blanche, un collant noir avec de petites têtes de mort et des chaussures à plateau. « Tu as envie d'être là ?» lui demande-t-il d'une voix douce. « Non, » répond-elle laconiquement en essuyant la morve sous son nez. « Écoute, t'as mal interprété la situation. » tente d'expliquer le proxénète. Le chasseur de lapins sait qu'il ne devrait pas être ici, mais ne peut s'empêcher de s'attarder un moment. Il se fiche de la femme. Elle va sombrer dans la prostitution, quoi qu'il en soit. C'est le maquereau qui constitue une tentation pour lui. « Laisse-la partir, » lui dit-il. « Elle n'a pas envie de partir, » répond l'homme en sortant un pistolet semi-automatique. « Demande-lui, » suggère le chasseur de lapins, et il sent des élancements chauds monter du fond de son ventre.
« Putain, mais qu'est-ce que tu veux? Tu te prends pour un héros ou quoi ?»
Il braque son pistolet sur le chasseur de lapins, mais face à son absence totale de crainte, il perd contenance et fait quelques pas en arrière.
« Il va rien lui arriver, » dit-il avec une pointe de nervosité dans la voix. « Elle se la pète un peu, c'est tout. Elle se croit au-dessus des autres. »
Le chasseur de lapins le suit, incapable de retenir un sourire. L'homme a baissé son arme. Le canon est maintenant dirigé vers le sol et il tremble. Il recule droit dans l'énorme conduit d'aération, s'agite confusément et essaie de s'enfuir comme un lapin malade.
« Fous-moi la paix !»
Il lève de nouveau le pistolet, mais le chasseur de lapins arrête tranquillement sa main, retourne le pistolet et lui enfonce le canon dans la bouche.
« Boum !» chuchote-t-il.
Puis il le retire. Il sort le chargeur qu'il laisse tomber sur le sol et enlève la balle de la chambre. Elle roule sur le béton jusqu'au pied de la jeune femme qui reste sans bouger, les yeux baissés, comme si elle avait peur de regarder. Le chasseur de lapins remonte la rampe, essuie les empreintes digitales du pistolet et le balance dans un seau contenant du sable et des mégots. Il s'accroupit pour passer sous la porte de garage et continue à longer le trottoir ombragé de Lund Makarkatan. Il tourne à droite, dans Reinsgatan, et arrive devant la grande porte en bois, juste quand une femme aux cheveux teints en noir avec un bras dans le plâtre l'ouvre à un homme avec un joli visage. Le chasseur de lapins les laisse passer avant de pénétrer dans le hall d'immeuble. Il se dirige droit vers l'ascenseur, entre et ferme la grille, puis appuie sur le bouton du dernier étage. Il se souvient de sa mère quand elle s'occupait des pièges avec lui. Il vaporisait du cidre sur le grillage pour que les lapins ne sentent pas l'odeur de l'humain. L'ascenseur s'arrête juste au moment où l'éclairage de la cage d'escalier s'éteint. Il n'y a qu'une porte à ce niveau, une solide porte de sécurité plaquée de chêne verni. Quand Rex sera mort, il a l'intention de lui couper les oreilles, de les enfiler sur une lanière de cuir qu'il portera autour du cou à l'intérieur de sa chemise. À cette pensée, sa tête se remplit de crépitements qui se muent en un vacarme assourdissant, comme lorsqu'on pousse un chariot de supermarché rempli de bouteilles sur le bitume irrégulier d'un parking. Le chasseur de lapins ferme les yeux et essaie de reprendre ses esprits. Il faut qu'il fasse entrer le silence ambiant dans le chaos. Il sonne à la porte, entend les pas s'approcher dans l'appartement pendant qu'il fixe le sol en marbre qui tournoie sous ses pieds. On dirait la plaque mobile au centre d'un bus articulé. La porte s'ouvre et Rex se tient devant lui, la chemise sortie du pantalon. Il le fait entrer, recule et manque de trébucher sur une valise. Le chasseur de lapins referme la porte, suspend son manteau à un cintre et enlève ses chaussures pendant que Rex grimpe l'escalier qui mène à l'étage supérieur inondé de lumière. Il ajuste la hache sous sa veste et emboîte le pas à Rex. « J'ai faim, » annonce-t-il en arrivant dans la cuisine. « Désolé, » sourit Rex en ouvrant grand les bras. « J'ai joué de la guitare au lieu d'éplucher des asperges. » « Je peux les éplucher, » dit le chasseur de lapins. « Alors je m'occupe du bouillon, » répond Rex, et il va chercher 4 bottes d'asperges vertes dans le réfrigérateur. Le chasseur de lapins avale frénétiquement sa salive en se disant qu'il faut qu'il prenne ses médicaments sans tarder. Un cri s'élève dans son cerveau, comme si on déchirait un drap. Rex fait partie des hommes qui ont violé sa mère, qui l'ont laissé comme une loque sur le tas de fumier. Il s'appuie de la main sur le plan de travail et sort un couteau d'office du bloc. Samy arrive dans la cuisine, une pomme à la main, lui jette un regard rapide avant de se tourner vers son père.
« On peut continuer de parler ?» demande-t-il en rougissant.
Le chasseur de lapins tâte le tranchant du couteau avec le pouce, appuie légèrement et ferme les yeux un instant.
« Samy, dit Rex, ça ne me pose aucun problème que tu sois là, c'est pas ce que j'ai dit. »
« Ouais, mais c'est vraiment chiant de toujours sentir qu'on n'est pas désiré, même si je sais que je l'étais pas. »«
De toute façon, on va tous mourir, » déclare le chasseur de lapins à voix basse.
Il regarde le couteau dans sa main, pense de nouveau à sa mère et au viol cauchemardesque qui l'a détruite. Il sait, à présent, qu'elle souffrait d'une dépression psychotique réactionnelle récidivante. Et que ces délires lugubres les avaient touchés tous les deux. Sa phobie des lapins et de leurs horribles terriers creusés dans le sol. Auparavant, il se tenait à l'écart des souvenirs de son enfance. La chasse aux lapins et l'angoisse de sa mère faisaient partie d'un passé secret. Mais ces derniers temps, les souvenirs se sont bousculés dans sa tête, brisant toutes ses défenses. Il l'assaille en pleine figure, comme si tout se passait à cet instant. Il est certain de ne pas être psychotique lui-même, mais le passé ne lâchera jamais prise.